7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Passer par la case prison au Monopoly, faire deviner des mots en les dessinant, conquérir des territoires sur un plateau, à quoi servent les jeux? Ils enseignent la défaite, rassemblent les familles, développent l'imaginaire des enfants et des adultes, vous allez l'entendre. À un peu moins d'un mois des fêtes de Noël, que nous raconte l'essor des bars à jeux, des ludothèques, dans les métropoles du monde entier? Le jeu de société a même son propre festival de Cannes, on en reparlera. On joue pour échapper au réel, souvent et en même temps pour le reproduire. Alors pourquoi un tel besoin de jouer? Avec nous pour en parler autour de ce plateau et sans mauvais jeu de mots, Henri Janté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du cabinet de conseil en innovation Unknowns. Patrick Rutner, bonjour.
Bonjour.
Vous gérez un bar à jeux de société à Paris, le Loya Café, ouvert depuis plus de 20 ans. Et bonjour André Stern.
Bonjour.
Vous êtes musicien, compositeur et auteur de Jouer, faisons confiance à nos enfants, aux éditions Actes Sud, avec nous depuis les studios de France Bleu Poitou à Poitiers. Et vous, les voisins, les voisines, jouez-vous à des jeux de société? Jouez-vous aux cartes? Aimez-vous les puzzles ou même les jeux vidéo qui nous plongent dans un monde virtuel souvent solitaire? Alors quel jeu préférez-vous et avec qui aimez-vous jouer? Vous l'aurez compris, le moment est venu, même si vous êtes un adulte, d'assumer votre goût pour le jeu. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer? Si vous voulez nous appeler, c'est maintenant au 33 1 84 22 71 71 et vous nous écrivez comme toujours sur les réseaux sociaux. Quelques messages déjà nous parviennent sur notre page Facebook. Je vous lis celui d'Abdoul à l'Abbé en Guinée. Je préfère les jeux de cartes et l'ambiance qui règne entre les potes quand on joue. Falomar est lui moins convaincu. Les jeux ne m'intéressent pas, c'est du gaspillage de temps. Konstantinov est lui à Bamougoum, au Cameroun. Le jeu de dames ouvre l'esprit avec sa stratégie d'attaque et de défense. Pour moi, c'est le meilleur jeu de réflexion qui existe. Sabre nous écrit lui depuis N'Djamena, j'adore le Scrabble. C'est un excellent ami, mon compagnon de tous les jours, car au-delà de l'aspect divertissement, c'est un jeu qui ouvre l'esprit et je découvre des mots grâce au Scrabble. On a beaucoup d'ailleurs de voisins qui sont fans du Scrabble sur notre page Facebook. Et puis je vous lis le message de Régis Ayaoundé au Cameroun. Malheureusement, les jeux de société qu'on trouve ici sont de pâles copies chinoises, souvent des jeux qu'on trouve en France. Ils sont de bien piètre qualité et cela donne pas envie d'y passer du temps avec ce qu'on aime. Du coup, je me rabats sur les jeux vidéo et même si c'est divertissant, cela manque considérablement de chaleur humaine, de parties de rigolade, d'engueulade ou de moquerie à l'encontre de celui ou de celle qu'on a plumé pendant la partie. Mais tout de suite, reportage. Nous sommes un dimanche après-midi dans votre café, Patrick Rutner, Loya Café, dans le 13e arrondissement de Paris. Sur les murs, près de 1000 jeux de société en libre service. L'ambiance est ludique. Notre reporter Raphaël Constant s'y est rendu. Pas pour jouer, mais plutôt pour poser son micro à la table de Louise et d'Estelle, deux amies venues avec leur fille de 6 ans.
Moi, je vais voler le jaune d'Emma.
Et je contre.
Et tu recontres.
Oh là là, pas mal. Très bien.
C'est moi qui ai joué. Oui, c'est à toi, Léonie.
J'ai 3 cartes.
Et moi, je peux rejouer?
Ah,
à moi?
À toi, Emma.
Et non, tu me le prends pas, tu me le touches pas.
C'est rigolo comme jeu, en tout cas.
Ouais.
À quoi vous êtes en train de jouer?
C'est un jeu et il y a des kangourous et il y a des cartes avec des couleurs et des kangourous de couleurs. Et par exemple, s'il y a une carte marron et un kangourou marron, on peut prendre le kangourou marron et on peut aussi prendre les kangourous des autres.
Quand on se voit l'été, on se fait des pique-niques ou des jeux à l'extérieur?
À moi, jaune. Oh, oh oui, c'est les mêmes. Marron, merci beaucoup. Et si tu veux me battre,
on prend une carte.
Ah oui.
Ouais, je peux vraiment pas te défendre à chaque fois. Moi, mon compagnon était passionné de jeux de société. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs, on en a beaucoup à la maison. Et donc, en fait, quand je l'ai connu, on jouait entre adultes et il faisait même des soirées jeux à la maison. Donc, c'était évident qu'avec enfants, on continuerait. Et c'est vrai que, en étant instituteur maternel aussi, ça paraît évident de jouer avec ses enfants et ses élèves. On a d'abord été un site et après on est devenu maman, donc ça, on a continué. Il y a des jeux hyper sympas entre adultes, donc ouais, en grandissant, on trouvera forcément des jeux sympas à faire tous ensemble. Ouais.
À quel type de jeux de société vous jouez généralement ?
Comment, il y a Diamoniac, Pirate Attack, c'est des jeux de stratégie où on doit construire chacune soit un château, soit un bateau, et on peut essayer de se voler des cartes ou alors d'économiser pour racheter les cartes de l'autre. Et donc c'est vraiment, ça c'est un des jeux qu'on aime bien, les graphismes sont beaux aussi, et puis les jeux coopératifs aussi, moi j'aime bien quand on joue tous pour une quête, tous ensemble, ou contre un personnage qui n'est pas un des joueurs.
Oui, ou les jeux de plateau. Nous, on a ressorti pas mal de vieux jeux, La Bonne Paye, le Monopoly, le Cluedo, des choses avec les cousins qui sont un petit peu plus grands, là. Mais c'est rigolo de retrouver des jeux où nous, on a joué plus jeunes. Mais je jouais, moi, j'avais un grand frère, une grande sœur, donc j'ai plutôt joué avec mon frère, ma sœur, les cousins. Donc c'est un temps d'échange. On a l'impression qu'on passe vraiment du temps à jouer. On est finalement assez à égalité sur, voyez, un petit jeu là, les kangourous, il n'y a pas de forcément, c'est pas l'âge qui fait la différence du jeu ou de la stratégie. Donc c'est ça qui est agréable, c'est qu'on découvre ensemble un jeu et on peut jouer adulte ou enfant, c'est la même chose. Non, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est assez à égalité.
Et est-ce que vous vous découvrez autrement quand vous jouez, vous et vos enfants ?
Oui, c'est vrai qu'on voit des traits de caractère qu'on voit peut-être moins dans la vie quotidienne. Et puis moi, j'anticipe les frustrations, donc j'essaye de faire, dans ma stratégie, je préfère attaquer ma pote que ma fille. je pensais pas que j'étais comme ça, mais je me vois un peu mère poule alors qu'on découvre nos enfants aussi autrement. Je la retrouve aussi dans l'objectif de gagner tout en étant discrète. Je me mets pas en avant, mais franchement, si je serais quand même très triste. Et après, c'est vrai que des fois à la maison, il y a des vraies larmes parce qu'elle a pas gagné quoi.
Et qu'est-ce qui a gagné ?
Dans la première partie, en fait, c'était moi.
T'aimes bien gagner, toi, j'ai l'impression.
Oui, j'adore gagner. Des fois, je vais m'énerver dans un cousin, mais après c'est mieux.
Et est-ce que t'aimes bien jouer avec ta maman ?
Oh, bien sûr. Parce que j'aime bien mes parents et j'aime bien jouer avec eux. Je joue en fait à la place des histoires pour aller au lit. On joue des fois aux jeux de société et après on va se coucher.
Ah.
Non.
Mais oh, tricheux. Ouais, je pense que c'est bien.
Non, elle peut être la rouge ou la jaune.
Quel bienfait dans le jeu vous trouvez là pour le moment, pour vous et pour vos enfants ?
C'est un vrai moment de partage en tout cas.
Ouais, on pense pas à autre chose, on n'est pas en train d'éplucher des carottes ou de faire la liste de courses pour le lendemain ou de se demander...
Sur notre iPad, à regarder quelque chose. Ouais. C'est un peu ce qu'on remarque dans la société actuelle, de moins en moins on a l'impression de partager des moments. On est beaucoup dans la réalité virtuelle, dans les échanges des SMS. Et je trouve que là c'est un vrai temps où il n'y a rien d'autre. On a passé 2 heures avec elle et voilà.
Et puis en plus, selon les jeux, il y a des beaux graphismes, des super univers. On peut être en Chine dans un train, ou alors hop, on est en Australie avec les kangourous. Non, c'est vrai que c'est sympa.
On revient, on ressort sereine.
Patrick Rüttner, votre bar à jeux accueille beaucoup de familles, comme celle que l'on vient d'entendre.
Oui, entre autres, elle accueille tout le monde, des adultes, des couples, des familles. C'est un lieu fait pour sortir jouer, pour dire que le jeu est une activité à part entière, qu'elle n'est pas réservée à être... Dans le cercle familial, comme on dit en France, c'est le jeu de société, c'est fait pour être dans la société.
Henri Janté, on est à égalité avec ses enfants quand on joue au jeu de société avec eux ?
À égalité ou pas, et c'est justement ce qui s'y joue. C'est potentiellement l'affirmation des hiérarchies familiales ou leur renversement. Et c'est ce qu'on observe, nous, ce qu'on a observé dans cette étude qu'on a fait. On a vu des cas de renversement de rôle au sein de la famille avec des enfants qui expliquent l'orthographe de mots de Scrabble à leurs grands-parents et qui en tirent un plaisir considérable.
Qu'est-ce qui se joue dans la famille quand on joue au jeu de société ?
Le jeu, c'est une manière à la fois de renforcer l'unité familiale, c'est-à-dire qu'on joue ensemble, et on l'entend bien dans le reportage, cette idée qu'on est ensemble autour du jeu. Et c'est aussi une manière pour les individus de s'exprimer au sein de la famille dans un espace qui est un monde à part. Il y a des choses qu'on peut dire dans le jeu, ou qu'on peut faire dans le jeu, qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Le renversement d'hiérarchie, par exemple, il est toléré dans le jeu, il n'est pas toléré dans la vraie vie. On a vu des exemples assez amusants de personnes qui... trouvaient dans le jeu le moyen d'expliquer à leur belle-mère qu'elle était stupide. Ils ne pouvaient évidemment pas le dire dans la vraie vie, et surtout au moment de Noël, mais ils utilisaient le jeu pour le dire.
En gagnant, en fait
En gagnant, en l'écrasant, en lui montrant qu'elle ne comprenait pas. Voilà. Il y a, aussi la potence d'avoir des rapports de force et des conflits qui, parce qu'ils sont dans ce monde à part, finalement, ont peu de répercussions dans la vie réelle, parce que celui qui a été attaqué peut, quelque part, refuser de voir qui l'a été. C'est-à-dire qu'il peut nier le fait qu'il a été attaqué, et celui qui a attaqué peut toujours dire... Cette phrase qu'on entend beaucoup, c'est « ça n'est qu'un jeu ».
André Stern, pour vous, le jeu, c'est, vous l'écrivez, notre meilleur instrument d'apprentissage. Et nous venons tous au monde avec une irrésistible envie d'en faire usage. Le jeu, en fait, ça développe l'imaginaire, notamment l'imaginaire des enfants.
Ça développe l'imaginaire, ça ne développe pas, ça lui donne un terrain sur lequel s'épanouir justement, parce que l'imaginaire est l'un des mondes de l'enfance. Je crois que le jeu de l'enfant se différencie du jeu de société dont on vient de parler, parce que le jeu de l'enfant n'a pas de but, et n'a surtout pas le but de gagner. Je pense que le jeu de société, c'est le côté utilitaire qu'on a réussi, et c'est fort heureux de l'avoir réussi, à regagner pour que, ben, il y ait des endroits où on ait le droit, même en tant qu'adulte, de jouer, alors que c'est un de nos penchants naturels, hein, c'est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille, et si on ne l'interrompait pas, il jouerait toujours. Et c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas de but au jeu de l'enfant, si ce n'est un petit détail, qui est le fait d'apprendre. L'apprentissage n'est pas une chose que l'on fait, c'est une chose qui nous arrive, c'est une sorte de dépôt d'alluvion à la fin de nos jeux. Et donc, on a beaucoup, dans nos sociétés, on a beaucoup dévalorisé le jeu. Le jeu est un objet déchu, juste bon justement pour les heures de loisirs. Or, à la base, c'était l'occupation principale de l'enfant. Et justement, le meilleur outil, alors c'est des neurobiologistes qui nous le disent de nos jours, j'ai la chance de travailler avec de nombreux scientifiques, le jeu, pour plein de raisons, est le meilleur outil d'apprentissage, ne serait-ce que parce que le jeu est un état d'émotion.
Ah, la ligne a été coupée. Les jeux sont à l'honneur aujourd'hui dans 7 milliards de voisins pour les enfants et aussi pour les adultes. Vous nous appelez les voisins dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Pense à 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'y refais le monde avec 7 milliards de voisins.
Et nous sommes en ligne avec une voisine tout de suite, Evelyne, qui est à Yaoundé. Bonjour Evelyne.
Bonjour Charlie.
Vous êtes adepte de jeux, je crois, notamment du Monopoly. On vous écoute.
Ouais, en fait, je viens d'acquérir un Monopoly et j'avais déjà acheté un Scrabble. Avant, j'étais adepte des jeux en ligne, mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être qu'on se remette aux jeux de société. Parce que nous, on travaille énormément dans le domaine du digital. Et la chose dont on a envie de faire quand on a du temps libre, c'est de voir autre chose que le digital. Et les jeux de société, ça nous réconcilie un peu avec ça. Le fait de partager autre chose que des écrans avec les autres, le fait de partager des souvenirs et tout, qui n'ont pas vraiment de rapport avec les écrans, avec tout ce qui est numérique et tout. Et c'est principalement pour ça que j'ai vu que j'ai joué aux jeux de société.
Et avec qui vous jouez, Evelyne, quand vous jouez à des jeux de société?
J'ai mes amis, c'est des amis avec qui je joue, j'ai la famille, j'ai plein de cousins avec qui on fait des parties de Scrabble. Et j'ai pas mal d'amis aussi également, mes neveux avec qui on joue au Monopoly. Ils découvrent eux, c'est pour les gars. Ils apprennent à jouer à autre chose, ils se demandent. Ils ont l'impression que c'est une autre époque.
Ah, la ligne est assez mauvaise. Evelyne, merci beaucoup pour ce témoignage. Patrick Rutner, Evelyne nous parlait du Monopoly. Alors le Monopoly, c'est un des jeux les plus vendus en 2016 en France, avec le Scrabble aussi, dont beaucoup de voisins nous parlent, La Bonne Paye et Puissance 4. Alors Monopoly, est-ce qu'on peut rappeler le principe du jeu peut-être?
Le principe du jeu, c'est un jeu créé dans les années 1900 par une communiste pour montrer les méfaits du capitalisme. Et donc c'est un jeu où on acquiert des propriétés. Et plus on avance dans le jeu, plus le joueur est riche devient de plus en plus riche et le pauvre devient de plus en plus pauvre. Donc c'était une vraie simulation du capitalisme. Ça montre la fascination du capitalisme quand même, puisqu'on voit bien que ça plaît encore. Voilà. Il a des défauts par rapport aux jeux modernes, par le fait que d'abord un jeu où on se fait peu à peu voler tout ce qu'on avait, c'est pas un jeu qui dit « Oh, j'ai envie de rejouer après ». c'est un jeu où on se fait éliminer. Alors que, par exemple, sur les 1000 jeux qu'on a à Oya, il y a très peu de jeux où on se fait éliminer parce que quand on joue ensemble, on a envie de finir la partie ensemble. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, ça, l'attrait de la manipulation, l'attrait de je te donne, tu me prends, etc., fonctionne toujours autant qu'avant.
Et il existe en France un vrai marché du jeu de société. Chaque seconde, il se vend 4 boîtes de jeux de société, ce qui donne 112 millions de boîtes vendues chaque année. Voilà, pour ce chiffre assez impressionnant, le concept des bars à jeux de société cartonne. On a aussi des ludothèques. Ailleurs dans le monde, on a aussi cette folie du jeu de société.
Ça reste, la folie reste mesurée, mais oui, ça se répand. Ça se répand avec le développement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup maintenant de bars à jeux en Corée, par exemple. En Chine, là, j'y suis retourné 3 fois de suite. À chaque fois, le nombre augmente, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Ça m'intéressait tout à l'heure, j'ai entendu qu'en Afrique, on trouve les copies chinoises. Or, en fait, en Chine, on trouve de moins en moins de copies chinoises. Parce qu'avec le développement économique, peu à peu, les éditeurs arrivent et s'installent. Et donc, on trouve dans tous les pays. Maintenant, il y a en Pologne, on joue beaucoup plus. Dans tous les pays d'Asie. En Amérique du Sud, maintenant, il y a des auteurs. On le voit avec les auteurs qui sont en général des joueurs qui se mettent à créer eux-mêmes. Il y a des auteurs brésiliens, maintenant, beaucoup. Il y a des auteurs, vraiment, le jeu se répand partout avec le développement économique. Donc, je pense, par exemple, en Afrique, ça va suivre logiquement. J'avais entendu une émission sur les écoles où on voyait que des gens dépensaient de l'argent pour mettre les enfants dans des maternelles. Et je pense que ça sera pareil. Les gens dépenseront de l'argent pour que leurs enfants se développent. Ils achèteront des Lego, ils achèteront des jeux de société parce que c'est un excellent moyen de se développer.
Henri Janté, chacun a un rôle en fait dans la famille quand il joue aux jeux de société. On a par exemple la figure du mauvais perdant.
En fait, on a deux personnalités. Alors, on a tous beaucoup de personnalités et on essaye de les faire cohabiter. Mais alors, dans la famille, on a un rôle et un rôle attribué qui généralement dure d'ailleurs très longtemps et bien au-delà de l'enfance. Et justement, on peut avoir aussi un autre rôle dans les jeux de société. On peut être le fils, l'aîné qui réussit formidablement bien et être celui qui triche systématiquement à tous les jeux. Il y a donc... Le jeu permet justement au sein de la famille d'articuler deux personnalités, une qui est finalement imposée, qui est devenue un archétype que je représente depuis dans l'enfance. Je suis le fils préféré, je suis la mère d'eux, je suis le frère d'eux, qui est toujours ce rôle très, très imposé, un peu un carcan, mais qu'on est obligé de continuer à jouer pour maintenir l'alliance familiale. Et le jeu permet justement d'incarner une autre personnalité, sans doute plus proche de celle qu'on est en grandissant dans la vraie vie, mais de faire cohabiter ces deux personnalités, donc de réguler finalement la vie de la famille.
On a parlé des conflits, mais les jeux permettent aussi de rassembler les familles et les amis.
Oui, particulièrement dans les moments de célébration familiale. Donc nous, on s'est intéressé à Noël parce que c'est un moment où les gens se réunissent en famille de façon assez systématique et surtout vivent ensemble pendant quelques jours. Et ça, donc, ça fait un moment un peu particulier. Donc oui, les jeux permettent de rassembler parce qu'on fait jouer plusieurs générations ensemble, parce qu'on porte attention à chacun à travers les tours de jeu. Mais ça permet non seulement de les rassembler, mais aussi de les faire vivre ensemble, parce que justement, on peut faire rentrer cette individualité.
Henri Janté, Patrick Rüttner, vous restez avec nous. On espère que nous pourrons réentendre André Stern dans la deuxième partie de cette émission. Les voisins, les voisines, on vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI pour continuer de parler des jeux, parfois méprisés dans nos sociétés. Et pourtant, ils nous aident à grandir. A tout de suite, les voisins, dans 3 minutes sur la Radio du Monde.
Milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
Ouais. 7 milliards de voisins. On est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez dans un monde ludique, un monde où on peut endosser le costume de détective, d'agent immobilier, de fantôme, un monde pourtant pas si déconnecté de nos réalités, car le jeu fait bien partie de nos vies et ce dès le plus jeune âge. Alors, que nous apportent les jeux de société, les jeux de cartes, les devinettes, un mois avant les fêtes de Noël, quel rôle pour le jeu dans les familles, pour les enfants et pour les adultes que nous sommes, qu'apprend-on en jouant? On en parle avec Henri Janté, cofondateur du cabinet de conseil en innovation Unknowns, qui s'apprête à publier une étude sur le rôle des jeux, notamment au moment des réunions familiales de Noël. Nous sommes également en compagnie de Patrick Rüttner, gérant de Loya Café, un bar à jeux de société, le temple du ludisme à Paris. Et puis également peut-être avec André Stern, musicien, compositeur, auteur de Jouer, faisons confiance à nos enfants aux éditions Actes Sud. Alors Patrick Rüttner, en quoi consiste votre bar à jeux? On paye sa consommation et puis on peut rester jouer
indéfiniment. En fait, quand on vient, nous, on aide, on va accompagner les gens qui arrivent, on va leur conseiller des jeux, parce qu'avec 1000 jeux, c'est difficile, on va les écouter pour voir quelle est leur envie du moment, parce que je considère le jeu un petit peu comme la musique, suivant ses impressions du moment, son humeur, on n'a pas envie d'écouter la même musique, pareil, on n'a pas envie de jouer au même jeu. Et après, on va leur expliquer la règle du jeu. Et les gens payent pour jouer à ce jeu-là aussi longtemps qu'ils veulent. Voilà, c'est 6 euros avec une boisson. Et nous, on les accompagne. Et si jamais il y a un problème sur la règle, on vient les voir également. Voilà.
Et les bars à jeux sont-ils des lieux propices aux rencontres? Ou alors, il vaut mieux venir avec ses partenaires de jeu?
Il y a des gens qui viennent tout seuls depuis toujours, depuis plus de 20 ans, qui viennent tout seuls et qui s'installent avec d'autres personnes sur une table. Moi, j'adore marier les gens, c'est-à-dire des gens qui arrivent à 2-3, des enfants qui se retrouvent à jouer avec des adultes, parce que c'est pas du tout genre. Les adultes joueurs sont vraiment très contents de jouer avec des enfants. C'est, pour eux, c'est très, très naturel. Et on voit, ils sont plutôt bienveillants par rapport aux enfants qui viennent. Le public d'Oya, c'est vraiment un public à part. C'est vraiment la crème. C'est les gens qui viennent, qui ont envie d'apprendre des nouveaux jeux, qui sont curieux, qui vont pas jouer tous les jours au même jeu, quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont devoir apprendre une nouvelle règle, donc ils sont très ouverts. Et pour eux, jouer avec d'autres personnes et jouer à un jeu nouveau, pour eux, c'est pareil. C'est vraiment dans l'idée de l'instant.
Et il existe même un festival de Cannes des jeux de société qui se tient au mois de février, ce qui montre que le jeu de société continue de se réinventer.
Ah oui, même il grossit énormément. Et puis, c'est vraiment une création, c'est vraiment de l'art. C'est-à-dire que les auteurs de jeux sont des créateurs à part entière. Ils se servent de leur culture, de tous les jeux qu'ils ont joués avant pour inventer, pour à la fois mélanger tout ce qu'ils ont joué avec une nouvelle idée, avec une... Moi-même, je suis créateur, donc je vois bien que j'utilise... Là, j'ai apporté un jeu que j'ai créé, mais en fait, dans ce jeu-là, même si la règle fait 5 lignes, je suis persuadé qu'il y a de l'influence de plein de jeux que j'ai joués avant. Parce qu'on peut, comme un peintre, quand il peint, est influencé par tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a dessiné avant. Un créateur de jeu est dans le même cas.
Vous êtes en effet venu avec votre jeu, le jeu aux 1000 titres, comme il s'intitule. Et vous avez installé là un plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en essayant d'être le plus visuel possible, comment ça fonctionne?
C'est un jeu, alors ce qu'on appelle, c'est un jeu de souvenirs, c'est pas un jeu de mémoire. Il y a un grand plateau qui représente une ville, qui représente un paysage, avec la campagne. Vous voyez, j'ai déplié que la moitié parce que le plateau est très grand. Et dessus, on va installer des personnages, il va y avoir des couples. Ça va être le boulanger, la boulangère, mais ça peut être aussi le vampire et la vampire. Ça va être le patron, la patronne, etc. Et on les pousse tous face cachée. Et quand ça va être son tour de jouer, on va essayer de retrouver les couples. C'est-à-dire, on va tourner une tuile. Par exemple, je retourne. Là, c'est l'amoureuse dans son bain. Alors, on annonce, ce qui est intéressant, parce que d'un point de vue grammaire, il faut dire l'amoureuse dans son bain, ou à l'école, ou chez le docteur, etc.
Ça va nous permettre d'inventer
du vocabulaire.
En fait, une histoire.
Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, on explique, mais qu'est-ce qu'elle fait dans son bain? Eh bien, c'est facile, là. C'est parce qu'elle a rendez-vous avec son amoureux, et elle veut vraiment être la plus belle possible pour aller voir son amoureux. Et puis, je retourne pour essayer de trouver l'amoureux. Je vais voir en prison, j'espère que ce n'est pas lui. C'est le prisonnier qui est en prison. Et cette fois-là, c'est assez logique. Ça va, le prisonnier en prison, on se doute.
Et en fait, ça nous permet d'inventer des histoires au fur et à mesure.
Et après, on retourne. Le jour suivant, on va retourner. Par exemple, s'il retourne le soldat au moulin, eh ben, c'est le plan Vigipirate. Il est obligé de surveiller même les moulins parce qu'on ne rentre pas comme dans un moulin.
Henri Janté, le jeu, on le voit, on l'entend, permet de lutter aussi contre l'ennui pendant les réunions familiales.
Oui, enfin... il a effectivement ce rôle de contribuer à la réussite de la réunion familiale. Et dans les réunions familiales, il y a trois types de problèmes fondamentaux. Et surtout quand on voit à Noël, qui est la réunion la plus importante, c'est celle qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas rater Noël, c'est pas possible. Et pour ne pas rater Noël, il y a trois choses qu'il faut éviter. La première chose, c'est effectivement l'ennui. On n'a pas le droit de s'ennuyer ensemble. Or, comme on est dans ces moments de célébration renvoyé à ce qu'on est historiquement depuis sa tendre enfance, le rôle qu'on doit jouer, et qu'on n'a pas trop le droit de faire venir les choses de l'extérieur, finalement, la conversation, elle peut s'arrêter assez vite. Parce qu'une fois qu'on s'est raconté les vieilles choses, voilà. Donc, le jeu, ça permet de relancer ça. Et on a plusieurs témoignages de gens qui nous disent que la fête se serait arrêtée bien plus tôt si on n'avait pas joué. Le deuxième rôle, c'est d'éviter ce qu'on appelle les faux pas, c'est-à-dire tout d'un coup, la présence de mon individualité, une discussion polémique, politique, une remarque déplacée, et tout d'un coup, l'harmonie familiale explose. Et le jeu, ça permet d'éviter ça, parce que ça occupe, et surtout, ça permet de déplacer ces faux pas sur le terrain symbolique, et du coup, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir dire « mais ça n'est qu'un jeu ». Ce qui est toujours un peu hypocrite, mais enfin quand même, qui permet de continuer à faire vivre l'harmonie familiale. Donc c'est l'ennui, les faux pas, c'est ces deux éléments qu'il faut absolument rejeter. Et puis le dernier point, c'est d'inclure tout le monde. Et ça c'est important, c'est-à-dire que les cérémonies familiales, c'est le moment où on est peu influencé par les autres, et c'est pour ça que les jeux vidéo sont d'ailleurs exclus, mais ça c'est pour les plus jeunes, mais pour les plus âgés, on a aussi un témoignage de quelqu'un qui a obligé son grand-père à éteindre la télé pendant les cérémonies familiales, parce que pendant les cérémonies familiales, on est ensemble les uns avec les autres.
On reparlera un peu plus tard dans l'émission des jeux vidéo. Pourquoi associe-t-on les jeux aux enfants, Patrick Rüttner?
Je sais pas. Non, je sais pas, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'on joue, tout le monde joue, c'est-à-dire que même des gens qui viennent acheter un jeu, ils me disent « moi je joue jamais ». Ah, sauf je fais ma grille de mots croisés chaque jour, mais je joue pas moi. Et tout le monde joue, c'est dans la nature des gens, c'est-à-dire que on l'associe aux enfants parce que quand on est enfant, comme disait Monsieur Stern, c'est tellement naturel de jouer, de manipuler, d'avoir envie de rire, d'être avec d'autres personnes, que c'est naturel. Par rapport à ce que vient de dire
Henri Janté,
oui, sur le terme jeu de société. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est pratiquement la seule langue où on utilise ce terme « jeu de société » en anglais, en allemand, en chinois, tout ce que vous voulez. On dit très souvent « jeu de plateau », ce qui est idiot parce que ce n'est pas le plateau qui définit le jeu. Un jeu de cartes, c'est un jeu de société. Un jeu sans rien avec des morceaux de papier ou verbal est un jeu de société. Le terme vient de la cour du roi, de Louis XIV, où il y avait tous les nobles réunis. Et justement, on devait éviter les faux pas, on devait occuper les gens le soir et on jouait à des jeux de société. C'était des charades, c'était des... Et ça n'empêche que c'était en dehors de la réalité, mais je ne sais pas si vous voyez le film Ridicule, où justement il aborde le jeu de société, et un faux pas dans le jeu de société était aussi éliminatoire.
Un faux pas dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, c'était pas non plus... On n'est pas non plus complètement détaché. Nous, à Oya, on a vu un divorce dans le jeu.
À cause du jeu.
Oui, qui était un petit peu voulu, visiblement. Elle a utilisé le jeu pour faire sa demande en divorce.
C'est étonnant.
Le jeu n'est pas détaché de la réalité. On est soi-même dans le jeu. On est plus dans le jeu qu'ailleurs. On a souvent on voit des responsables de centres de loisirs ou de centres de vacances qui amènent tous leurs animateurs ou qui viennent faire leur recrutement à Oya en les faisant jouer, parce que quand on joue, on se découvre. On enlève ce carcan de... qui nous cache, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un bon moyen, si vous êtes attiré par quelqu'un, vous pensez vous marier, venez jouer à Oya avant. Passez 2-3 heures, peut-être, mais plus la relation, vous allez découvrir des choses chez l'autre. De voir, peut-être on va vous rendre compte qu'il est très égoïste, qu'il ne supporte pas la critique, qu'il va ne décider pour vous. Vous allez voir des choses.
Des traits de personnalité vraiment émergent pendant certaines parties.
Il se cache. Vous voulez partir en bateau, en groupe, venez jouer avant. Ça vous évitera des surprises au bout de 4 jours en mer. Vous allez voir, en 2 heures, vous allez voir la personnalité des gens.
Et il peut y avoir aussi un vrai esprit de compétition qui émerge pendant ces parties.
Les vrais joueurs, nous, Oya, on n'a pas ça, parce que c'est les vrais joueurs. C'est-à-dire que vous me parlez du Monopoly, je pense que le Monopoly maintenant est remplacé plus ou moins par les colons de Catane.
Un autre jeu de plateau.
Qui est un jeu de plateau, mais qui joue en 1 heure, où on échange et tout ça. Et à Oya, j'ai jamais vu personne se disputer. Mais quand je suis allé dans ma belle famille, j'ai joué avec des... Même pas une famille d'amis de ma belle famille. J'ai vu les parents, les grands-parents, qui avait 60 ans passé, qui se disputaient, qui comprenaient pas, qui arrivaient pas à se détacher du jeu, alors qu'ah oui, on voit jamais ça, mais dans voilà, je retrouve ce que me dit Jeanne.
Et nous sommes en ligne tout de suite avec une voisine, Françoise, à Lomé, au Togo. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors moi, j'avais envie de vous parler du jeu de Mahjong, que votre collaborateur ne connaissait pas du tout. C'est un jeu chinois.
Moi non plus, je vous l'avoue.
Vous le connaissez ?
Non, c'est un jeu chinois, donc je ne connaissais pas.
Voilà. Alors ça se joue avec des tuiles qui ressemblent à des dominos. Il y en a 144 dans le jeu. Il y a 3 familles différentes. Et nous sommes, en l'occurrence, ce jeu se joue le mieux avec 4 personnes. Voilà. C'est un jeu de chance et un jeu de stratégie. Il y a les deux aspects. Donc c'est sûr que ça nous fait travailler la tête, quoi. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et ce qui est sympathique dans notre groupe, c'est qu'on est 4 nationalités différentes. Mmh. Et on communique en anglais. Mmh. Et puis voilà. Donc alors, c'est un jeu de... on distribue des tuiles. Chaque personne... on monte d'abord une muraille, un carré de tuiles, des 144 tuiles. Après, on en distribue 13 à chaque personne. Et on démarre le jeu et on choisit, on regarde les tuiles qu'on a reçues dans la distribution, quelle famille on pense pouvoir construire.
Un jeu
c'est sûr que comme c'est un jeu de chance aussi, de hasard, des fois les tuiles qu'on tire ne sont pas les bonnes. Quoi.
Mmh. Un jeu donc très répandu en Chine, ah vous oui. le dites. Merci Françoise
interdit
pour ce témoignage.
Mao, mais réautorisé maintenant, c'est un jeu d'argent.
Patrick Rittner, c'est un jeu d'argent.
Je vois, il a été importé en Afrique, ce qui fait plaisir. C'est un rami avec des tuiles, avec beaucoup de combinaisons, donc c'est vraiment un jeu d'argent. Il ne faut surtout pas jouer pour de l'argent avec des Chinois. Ils sont forts parce qu'ils connaissent toutes les combinaisons. C'est un jeu de hasard, mais n'y jouez pas pour de l'argent avec des Chinois, c'est dangereux.
Et les jeux d'argent, on évite aussi pendant les réunions de famille en régenté.
Ben oui, les jeux d'argent, on évite parce que le jeu est ce monde à part et qu'il a ce rôle de régulation dans la famille. Dès qu'il déborde sur la vraie vie, tout d'un coup, il y a un problème. Donc je rebondis sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que quand il y a eu un divorce, effectivement, c'est... Le danger, c'est que quand le jeu va trop loin, il déborde sur la vie réelle et du coup, il devient un problème pour l'harmonie familiale. Et c'est ça qu'on doit éviter. Donc, il y a plusieurs techniques pour désamorcer à ce moment-là les conséquences de la vie réelle. Donc, on joue peu d'argent en famille.
Il ne faut pas forcément éviter les divorces. Hein. Si on ne s'entend pas, il vaut mieux divorcer.
Non, c'est... Les jeux de société nous amènent à cette
C'est un jeu intéressant. C'est un jeu qui s'appelle Privacy, qui est un jeu où on pose une question. Par exemple, est-ce que je suis plus intelligent que mon voisin de gauche ? Et tout le monde va voter oui ou non dans une boîte au milieu. Et après, chacun vote pour dire d'après lui, va répondre dans une boîte cachée. Et chacun va dire d'après lui combien de personnes ont répondu oui. Et après, on dépouille.
C'est périlleux pour l'équilibre des familles.
Et, non, mais c'est pour ça, c'est pas un jeu quand j'ai en famille. C'est
un jeu dangereux.
C'est difficile, surtout qu'il y a des questions là, c'est une question gentille, mais il y a des questions difficiles. Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est un jeu qui fait communiquer,
Oui, c'est l'occasion aussi de se dire des choses. Les voisins, les voisines, nous jouons aujourd'hui dans 7 milliards de voisins et nous allons parler bientôt, il est difficile de ne pas en parler, des jeux vidéo. On se retrouve dans un instant après une petite pause musicale.
7 milliards de voisins.
Sur RV.
And these haters gonna hate, but I wish them all the best, mama. 'Cause cause I'm a beast, I'm a killer on a beat. Why they looking at me strange, someone tell them who I be. At the least they a fan, let them know it's all peace. It don't matter where I am, I ain't never gonna leave. But shout out to Young Hooks, shout out to DC, shout out my city and the people that believe me. Cause we are gone like the moon in the morning. The sunshine bright when you're used to the storm. But we off to the stars, never to return again. Neil Armstrong from the moon, never heard of him. Now we don't play, we could do this all day. And we never fit in, cause we do it our way.
What's up? What's up?
I got the ship on autopilot. They can't see what I do, call it ultraviolet. Now these chumps can't bite, I got them on a diet. I think I lost my mind, but I ain't trying to find it. Now what I say, I'm just giving y'all a taste. I said that I deliver, now the shipment's on its way. A new place where I'm living out my days. And they'll never weigh me down, cause I'm living out of space. But I got my shades on, I'm in the limelight. I'm here to silence all the critics, this is my life. There's no excuse, ain't no question on the proof. Plus I'm on another planet, on a mission for the truth. With my finger on the trigger, I hope they're thinking fast. When they think they got me figured, I just flip it on their ass. Cause I'm a future, I'm the present, I'm the past. I don't worry about the tense, cause I know I'm gonna last.
C'était Interstellar de Omar Lynx dans 7 milliards de voisins sur RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, quelle place pour les jeux et pour les jeux vidéo dans nos vies. Nous sommes en ligne tout de suite avec un voisin, Tierno à Conakry. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien, et vous? On vous écoute, Tierno.
Ah, ça va, ça va. Bon, les jeux vidéo, c'est un jeu qui m'a plu depuis à l'enfance. Bon, j'adorais beaucoup de jeux. Et puis, je jouais beaucoup à l'enfance. J'ai pleuré même pour que mon papa m'achetait des jeux. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais, j'ai eu la chance d'avoir un jeu avec moi. Je jouais beaucoup.
Vous jouiez notamment à FIFA, hein, le jeu de foot, c'est ça?
Oui, oui, FIFA Pro, je joue beaucoup à ça actuellement, à Conakry ici. Et puis beaucoup de Guinéens adorent le jeu aux jeux vidéo actuellement. Surtout FIFA Pro, j'adore beaucoup de jeux à la PlayStation. Je n'y vois pas beaucoup de personnes jouer ici. À la carte ou aux dames ou à des trucs. Nous, les gens jouent beaucoup ici à la PlayStation.
Aux jeux vidéo plutôt. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous de jouer aux jeux vidéo? Quel bienfait ça vous procure?
Bon, ça me rend à l'aise. Quand je joue aux jeux vidéo, il y a le stress qui fuit à moi. Je suis à l'aise. Les soucis partent à moi, là.
Ça vous détend?
Oui, oui, ça me... Je détends beaucoup là, les jeux vidéo.
Et aujourd'hui,
des fois quand j'ai des ennuis, quand je pars, je joue aux jeux vidéo là, ça suffit sur moi directement.
Et vous avez vous-même une salle de jeux vidéo à Conakry, hein, que vous avez créée.
Oui.
Où des jeunes viennent, notamment, pour jouer.
Oui, jouer.
Merci Tierno pour votre témoignage. Effectivement, c'était difficile, hein, Patrick Rutner, de ne pas parler des jeux vidéo. Alors, il n'y en a pas à Ouya Café?
Non, mais ça, c'est pas éliminatoire. Mais je pense que c'est intéressant ce qu'il disait, c'est sur le côté point de croix du jeu vidéo, qu'on retrouve dans certains jeux de société également. Le côté « je me vide », c'est un côté zen. Le point de croix, c'est vous voulez vous détendre, vous faites du point de croix pendant trois quarts d'heure, vous êtes bien détendu. Et quand quelqu'un joue à Candy Crush dans le métro en sortant du travail, c'est la même chose. Il y a le jeu vidéo, il y a vraiment cette part-là où je me vide quelque part, comme je peux me vider en regardant un feuilleton ou quelque chose. moi j'appelle ça point de croix, et on retrouve dans certains jeux de société qui ont un rythme posé justement, qui vont être pas agressifs, que je vais essayer de construire doucement. On retrouvait ça
et dans les puzzles aussi peut-être.
Dans les puzzles, oui, oui, tout à fait. On retrouve
on
ce côté-là.
Les pièces.
Voilà. Et après, le jeu de société est de plus en plus en fait, et de plus en plus se joue en plus à plusieurs. C'est-à-dire que la mode actuelle, c'est les battles royales. C'est-à-dire, je me retrouve à 60, 100 sur une carte, il faut être le dernier survivant. Et c'est 100 personnes à la fois. Ça peut être intéressant, c'est pas mon truc à moi, mais c'est intéressant que ça est en train complètement d'éclipser les jeux où on jouait tout seul. C'est-à-dire que les gens ont envie d'être à plusieurs. Après, je pense que le plaisir d'être face à face, voilà, on me disait tout à l'heure, quelqu'un disait je préfère les jeux de cartes, parce que oui, parce que quand on joue aux jeux de cartes, on ne regarde même pas le plateau, on ne regarde pas un écran, on regarde que l'autre personne. On a ces cartes qui sont entre la personne, l'autre personne et nous-mêmes. Je mime avec les mains, pardon.
Et puis on essaye de décrypter aussi ce qui se passe sur l'expression.
Et on voit, oui, on regarde, mais c'est là où on est le plus avec l'autre personne. Et ça, c'est ce qu'offre le jeu de société. Le jour où il y aura des écrans translucides qu'on pourra mettre au milieu en 3D et que les gens pourront manipuler, la barrière entre jeu de société et jeu vidéo aura complètement disparu. On pourra manipuler un pion tout en regardant la personne en face. Je pense que c'est là on regarde qui différencie. On est tous tournés devant un écran plutôt que de tourner vers son voisin.
Henri Janté, les jeux vidéo sont un plaisir effectivement solitaire, qui n'ont peut-être pas leur place en famille.
Solitaire dans la limite de ce qui vient d'être dit et qui est très important, c'est qu'effectivement la tendance est de plus en plus aux jeux multijoueurs et aux jeux en ligne. Mais dans la famille, il y a effectivement quelque chose de particulier, et surtout dans la célébration familiale, c'est le besoin d'être ensemble et les uns tournés vers les autres. Et ça rejoint exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire de se voir, de se regarder, de s'offrir des cadeaux, de prendre des photos ensemble. Et en fait, le fait de s'isoler, ne serait-ce que pour téléphoner à un ami, est finalement assez mal vu. On a besoin, il y a une obligation à se retourner les uns vers les autres, et le jeu vidéo effectivement sort de ce cadre et isole du groupe dans lequel on est, sauf si on arrive à jouer tous ensemble. Alors il y a eu un moment, la Wii permettait un peu de le faire, mais ça reste de la coopération autour d'un écran et moins quand même
les uns face aux autres. Ouais. On transmet des valeurs par les jeux, notamment par les jeux de société.
Mais jouer, c'est toujours plus que jouer. Jouer, c'est jamais anodin, on l'a vu, et la transmission de valeurs, ça se fait aussi évidemment à travers le jeu. C'est-à-dire que entre jouer au Monopoly, qui est un jeu effectivement de compétition extrêmement violent, ou privilégier des jeux de coopération, on ne va pas du tout transmettre les mêmes choses, on ne va pas du tout valoriser les mêmes actes auprès de ses enfants ou des personnes qui sont autour de soi. Et puis, ça transmet... faut-il laisser perdre ou gagner les enfants? C'est une vraie question. Est-ce que finalement, on a eu, nous, dans l'étude, beaucoup de cas de frères et sœurs, surtout parce que les parents ont tendance à laisser gagner les enfants pour les aider, pour les motiver, alors que les frères et sœurs sont relativement impitoyables et ils disent toujours, mais il faut qu'il apprenne à perdre. De toute façon, dans la vie, il va perdre. Donc oui. C'est aussi une manière de transmettre des valeurs, y compris par des frères et sœurs qui ne sont pas forcément, normalement, les référents sur ce sujet-là.
Après, c'est notre travail, nous en tant que, on a aussi une boutique, et où quand les gens viennent jouer, notre travail, c'est de faire que les familles jouent à des jeux où tout le monde peut gagner.
Y compris les enfants.
Y compris les plus jeunes. Il y a des jeux qui vont être, il y a des enfants de 5 ans par rapport à un enfant de 10 ans, à des capacités complètement développées, l'observation est complètement montée, la mémoire, la rapidité, il faut utiliser ses capacités, le bluff. Un enfant de 5 ans est tout à fait capable de cacher ce qu'il pense. Et donc, il faut utiliser ses capacités pour jouer à ce type de jeu. Au loup-garou, il va très bien pouvoir gagner, parce qu'il va savoir se cacher. Il va savoir faire semblant qu'il est quelqu'un d'autre. Par contre, si on le fait jouer à un jeu de stratégie pure, il va perdre, mais on le met en échec. C'est pas satisfaisant. L'adulte se retrouve obligé de jouer avec une main dans le dos, en faisant semblant de jouer. C'est pas agréable pour tout le monde. L'enfant le sent, que l'adulte joue pas à fond. C'est vraiment dans le choix du jeu. L'avantage du marché d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de jeux de société et qu'il est facile de trouver des jeux où l'enfant petit va pouvoir jouer à égalité avec l'adulte.
Et que répondre à un voisin qui s'inquiète sur Facebook de ce que ses enfants fassent d'abord en priorité leurs devoirs avant de penser à jouer? Effectivement, du temps de jeu, c'est du temps de devoir en moins. du temps de travail en moins.
Pas forcément prioritaire, il faut qu'ils fassent leurs devoirs, mais à partir du moment que moi je rentre de l'école, je comprends très bien qu'on a envie de jouer. Après,
et puis on apprend en jouant aussi.
Et puis il va faire autre chose, et puis il y a une détente, et puis il y a un plaisir. Et puis après, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve ça du meilleur trois quarts d'heure dans la soirée pour jouer, pour faire ses devoirs. Mais lui dire, tu rentres, tu fais tes devoirs immédiatement, c'est plus aller dans l'impératif de l'adulte plutôt que l'impératif de l'enfant. L'enfant arrive, il a envie de se reposer, que oui, il a pensé toute la journée à son jeu vidéo, au jeu qu'il avait envie de jouer. C'est très sévère par rapport à l'enfant, lui dire non, tu joueras pas, tu vas d'abord travailler. C'est lui faire considérer l'étude comme une punition, ce qui est jamais une bonne solution.
Alors on arrive à la fin de cette émission. Que raconte le recours au jeu dans nos sociétés? Est-ce que nos sociétés vont mal, ont besoin de se distraire, ou au contraire, elles s'amusent?
Le jeu a toujours fait partie. Il augmente aujourd'hui parce qu'on a plus de loisirs, parce qu'on a plus de pouvoir d'achat, parce qu'on a plus de temps. Et voilà, mais le jeu n'était pas absent. Dans les cafés, il y a deux siècles, il y avait sans arrêt des gens qui jouaient. On se retrouvait le soir, on jouait à des jeux de cartes, à des jeux de pions, parce qu'il n'y avait pas la télé. Les cafés se sont vidés pour remplir les maisons où les gens regardaient les télés, où maintenant ils se vident pour les gens qui rentrent chez soi pour regarder leur petit écran. Mais le jeu de société a toujours existé. C'est juste que maintenant, on a envie de jouer à des jeux nouveaux, à des jeux qui ont des rythmes plus rapides, parce qu'on a moins de temps. La moyenne des jeux actuels dure trois quarts d'heure, alors comment ça dure une heure et demie? Voilà.
Et le jeu fait toujours partie de nos vies, aux enfants, celle des enfants et celle des adultes. Merci à vous, Patrick Rüttner, merci également à vous, Henri Janté, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Nicolas Benita, Cécile Lavolo, Quentin Ferral, Baptiste Madinier, et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide depuis Saint-Louis avec le coach Didier Akwété au Sénégal.